Aujourd'hui, les mercredis du théâtre par Joël Gaillot.
Bonjour, vous le savez sans doute, la critique théâtrale et le théâtre en général viennent de perdre, voici quelques semaines, une de leurs figures les plus éminentes. Anne Hubersfeld, sémiologue, critique et grande dame de la profession. À l'occasion de sa disparition, nous avons décidé, dans les mercredis du théâtre, d'évoquer sa mémoire et de dresser, autour de son souvenir, un panorama de la critique théâtrale française. Anne Hubersfeld, née peu après la Première Guerre mondiale, a écrit dans l'Humanité. Mais cette universitaire, agrégée de philosophie, spécialiste de Hugo, attentive aux nouvelles écritures de Coltès à Vinaver, a surtout apporté au théâtre des outils de décryptage et d'analyse jusqu'alors essentiellement appliqués à la littérature. Nourrie par le structuralisme, proche des communistes, cette spectatrice assidue ne séparait pas l'observation des textes de la représentation scénique. Son ouvrage, Lire le théâtre, paru en 3 volumes dans les années 70, reste une bible pour tous les étudiants et les chercheurs. C'était aussi une femme totalement vivante dont les humeurs et les excès, s'ils terrorisaient ses élèves, séduisaient pourtant ses proches. Philippe Mignana, auteur dramatique, nous livrera d'ailleurs un éclairage tout à fait inédit sur cette personnalité qui pourrait être érudite, n'en était pas moins chaleureuse et iconoclaste. Au-delà de l'apport de Anne Hubersfeld, nous avons voulu regarder d'un peu plus près ce qu'il en a été au cours du siècle de la critique théâtrale. À l'appui de cette émission, un livre nous a servi de guide. Il s'intitule « Un siècle de critique dramatique » et a été dirigé par Chantal Meyer-Plantureux, professeure en art du spectacle, directrice du département Université Caen-Basse-Normandie. Elle est aussi notre invitée. L'ouvrage est édifiant, qui rayonne de la fin du XIXe siècle avec l'avènement d'un nouveau journalisme jusqu'à nos jours. À travers lui, ce sont tous les problèmes auxquels se heurte la critique théâtrale qui nous sont racontés. Problèmes, impasses, défaillances, mais aussi bonheur du journaliste à hanter chaque soir les salles et à écrire ses papiers dans la nuit. Où en est-on de la critique théâtrale, que nous apprennent de cette pratique les Émile Zola, les Romain Rolland, les Léon Blum, les Bernard Dorte, les Bertrand Poirot-Delpech, toutes ces signatures prestigieuses qui, elles aussi, ont exercé leur œil et leur plume, nuit après nuit, au retour des spectacles. C'est l'objet des Mercredis du Théâtre aujourd'hui. Chantal Meyer-Plantureux, vous êtes professeure en art du spectacle, vous êtes directrice du département Université Caen-Basse-Normandie et avec vous, on a la chance finalement d'avoir presque deux interlocuteurs. D'une part, la personne qui s'est consacrée à étudier la critique dramatique dans son siècle, et c'est l'objet de l'émission Les Mercredis du Théâtre aujourd'hui, un regard historique et analytique sur l'état de la critique, ce qu'elle a été, ce qu'elle est devenue, son évolution. Et puis aussi l'élève qui a été formé par celle qui a au fond impulsé l'idée de cette émission, qui est Anne Hubersfeld, qui est décédée il y a peu. Anne Hubersfeld qui était universitaire, professeure émérite à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, qui a été une grande figure de la recherche sur le théâtre, qui a écrit dans des journaux, notamment l'Humanité, et qui a d'une certaine manière nourri le théâtre de tout l'apport structuraliste qu'elle a pu vivre à son époque. Quel est pour vous justement l'apport essentiel d'Anne Hubersfeld dans le domaine du théâtre et du regard qu'on peut porter sur le théâtre, Chantal Meyer-Plantureux?
Alors, je vais vous parler évidemment de Anne Hubersfeld telle que je l'ai connue, puisque en fait, elle a été mon professeur jusqu'en doctorat, et c'était déjà un professeur assez exceptionnel. C'était une figure. C'était pas seulement un professeur. C'était la grande époque de l'Institut d'études théâtrales de Paris 3, à l'époque où il y avait Bernard Dorte, Anne Hubersfeld, donc des figures souvent d'ailleurs antinomiques, qui nourrissaient déjà à l'intérieur même de l'institut un débat qui était absolument passionnant. Et alors Anne Hubersfeld, évidemment, ça a été la sémiologue. On l'a cantonne souvent dans ce domaine-là. Quelquefois, elle était un peu agacée parce qu'il y avait vraiment des antis. Mais c'était plus que ça. C'était la confrontation d'idées, le débat. C'était des années où il n'y avait pas de politiquement correct, où un professeur enseignait même la mauvaise foi, je dirais, mais où on avait le droit de lui répondre et où c'était avec une franchise, une volonté vraiment d'aller très loin dans le débat. Alors on avait des spectacles à aller voir, on devait en rendre compte et à ce moment-là, quand on avait aimé quelque chose qu'elle n'aimait pas, c'était terrible. On se faisait vraiment démolir et justement tout le jeu, et je pense aussi, parce que j'en ai parlé très longtemps après avec elle, c'était de nous pousser dans nos retranchements et de ne pas nous laisser imposer une parole. Et je crois qu'elle nous terrorisait, enfin elle voulait nous terroriser, mais elle adorait qu'on lui tienne tête. Et je dois dire que pour moi, ça a été vraiment fondateur et c'était des joutes verbales, des joutes intellectuelles qui étaient d'un niveau vraiment riche, vraiment.
Est-ce qu'à votre avis, Chantal Meilleur-Plantureux, Anne Hubersfeld était plus théoricienne du théâtre que critique dramatique ?
Je crois que c'est quelqu'un qui ne peut pas être réduit à une étiquette ou à une autre. Elle était vraiment le mélange des deux. D'abord, elle allait tout le temps au théâtre, moi, même
elle
les dernières années.
Elle était spectatrice.
Une spectatrice très engagée, qui discutait, qui revendiquait. Puis elle ne faisait pas de cadeaux non plus. Mais c'était une spectatrice jusqu'à il y a très peu de temps. On la voyait tout le temps au théâtre. Donc elle était entièrement nourrie du spectacle vivant. Et en même temps, une normalienne, quelqu'un qui avait aussi une réflexion, une profondeur de théorique, qui était, c'était les deux. Vraiment, on ne peut pas la réduire à l'un ou à l'autre. C'était quelqu'un qui vivait constamment et dont l'intelligence rayonnait totalement, mais quelqu'un avec qui il fallait se confronter. Auprès d'elle, on avait un rôle, c'était socratique, quoi. On avait l'impression qu'on lui apprenait aussi et qu'on pouvait la contredire.
J'ai parlé tout à l'heure, Chantal Meilleur-Plantureux, de son travail par rapport au structuralisme. Alors de la littérature, elle a appliqué le structuralisme au théâtre. J'ai aussi fait allusion au fait qu'elle travaillait en tant que critique à l'Humanité. C'est vrai que Anne Hubersfeld a été attachée aux communistes et au communisme toute sa vie durant, en fait. Est-ce que ça a influé aussi sur le regard qu'elle portait sur le théâtre, sur la représentation ?
Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'on ne peut pas détacher la femme du professeur ou du critique. Ça, c'est une évidence. Elle avait ses idées extrêmement arrêtées. Puis, il y avait tout son itinéraire. Il y avait tout le poids aussi de son itinéraire pendant la guerre, etc. Donc, même si on ne partageait pas forcément ses idées, moi, je me souviens très bien de l'avoir vue à l'enterrement d'Aragon. C'est un souvenir encore très proche. Mais c'était quelqu'un qui vivait. On ne peut pas lui reprocher d'avoir eu sa part citoyenne, on pourrait dire aujourd'hui. Par contre, je dois dire qu'il faut vraiment bien séparer les séminaires de doctorat, où nous étions quand même deux adultes, de ces cours de licence, où évidemment rien ne filtrait vraiment. On le savait, on était au courant. Ça n'obscurcissait pas non plus son jugement et ça faisait partie justement des joutes. Elle nous a appris à réfléchir par nous-mêmes. Enfin, moi personnellement, elle m'a véritablement appris à ne pas me laisser trop influencer, à réfléchir par moi-même et à contrer même la parole du maître. Et ça, c'était essentiel. Pour moi, c'est l'une des choses les plus riches et les plus fondatrices qu'a laissé, en tout cas dans l'esprit certainement de beaucoup de ses étudiants.
Anne Hubersfeld, une archive de 1977.
Nous ne savons pas bien s'il existe encore une sémiologie du théâtre. C'est une science, ou le mot est peut-être ambitieux, une discipline qui reste à constituer. Mais voilà ce qui se passe. À partir du moment où on s'intéresse à autre chose qu'à l'histoire du théâtre, et surtout à partir de l'époque présente où les formes de théâtre deviennent extrêmement diverses, où les pratiques sont très très dispersées. Peut-être vaut-il la peine de s'interroger sur le théâtre compris comme une pratique. Une pratique, c'est-à-dire la constitution d'un système de signes, des signes de représentation, que les spectateurs sont bien obligés de lire, de comprendre, quelquefois de décrypter, parce que ce n'est pas toujours évident. Or, nous ne sommes pas très aidés par les disciplines traditionnelles de la littérature pour comprendre ce qu'est l'objet théâtre. Et ce n'est pas non plus l'histoire du théâtre, de la dramaturgie, des formes théâtrales qui va beaucoup nous servir. Alors nous sommes obligés de chercher des méthodes un peu nouvelles. Et nous les cherchons du côté de la sémiologie, disons de la sémiologie générale, c'est-à-dire de l'étude des systèmes de signes dans le cadre de, disons, largement de la théorie de la communication. C'est-à-dire du fait que dans le monde, les êtres humains communiquent les uns avec les autres et que dans cette communication, il y a un émetteur, il y a un message, il y a un récepteur qui en l'occurrence est le public, et puis il y a une série de codes qui sont comme les langues dont se servent les communicants pour communiquer. Alors nous, la sémiologie théâtrale, essaie donc de comprendre ce que peut être le système des signes au théâtre à l'aide des méthodes sémiologiques et en particulier de la théorie de la communication.
Je vous propose d'écouter Chantal Meilleur-Plantureux, le témoignage de Philippe Mignana, qui a bien connu Anne Hubersfeld, qui est auteur dramatique et qui en parle un peu comme vous en parlez, c'est-à-dire comme d'un être surtout et avant tout dans la vie.
C'était un choc, j'avais 20 ans et je vois cette femme petite, avec cette voix éraillée, cette bouche magnifique, qui était agitée d'une espèce de passion incroyable pour la littérature, qui n'était que littérature, qui parlait que de ça, et de cul aussi. Elle était très crue, et moi j'ai pas eu comme professeur à l'université, je l'ai eu uniquement en tant qu'animatrice, entre guillemets, et elle avait des formules ravageuses dans une matinée. C'est ce qu'a dit Hubersfeld. Elle a dit que Célimène était un vagin qui marche et que Phèdre avait le feu au cul. Alors évidemment, dit dans un repas entre nous, c'est tout à fait charmant, dit à 67 à Besançon, l'université, pour des gosses comme nous, on était évidemment hystérisés, ravis d'entendre quelqu'un qui n'avait pas la langue de bois et qui avait cette vitalité incroyable. Alors elle dirigeait de façon très particulière parce qu'elle montrait ce qu'il fallait faire et je l'ai vu une fois se jeter sur la moquette du théâtre municipal de Besançon pour nous montrer comment il fallait mettre l'énergie, il fallait oser, etc. Mais alors, après elle a suivi tout mon travail pendant tout le temps jusqu'à ce qu'elle soit sourde et handicapée, qu'elle ne pouvait plus venir au théâtre. Et chaque fois, elle se précipitait sur moi comme une fusée, à peine le spectacle terminé, me disant des choses que je ne comprenais pas. Je dois dire, tellement alambiquée. Alors moi, j'ai dans l'émotion, en plus de la fin d'un spectacle, je ne percevais pas tout ce qu'elle racontait. En tout cas, il y avait une générosité, il y avait une amitié. Elle m'avait souvent interviewé chez elle, rue Gazan, sur le théâtre. Et je pense que ce qui a marqué tous les étudiants comme moi et toutes les gens qu'elle a croisés ensuite, c'est la clarté intellectuelle. Et l'honnêteté intellectuelle. Elle mettait en valeur des endroits qu'on ne mettait pas en valeur à l'université en général. Elle n'était pas du tout académique. Et beaucoup plus tard, j'étais professeur de lettres à Metz, en Lorraine. Et elle est venue, je suis allé évidemment, faire une conférence à la faculté de Metz sur Hugo. Oui. Donc cette femme, à l'époque, elle devait avoir 60 ans et quelques. Elle s'est assise, comme elle faisait régulièrement, sur le bureau, non pas sur la chaise, mais sur le bureau, les jambes très visibles qu'elle avait jolies, avec un pouvoir érotique absolument incroyable, une sensualité incroyable qui restait les gens pantois devant une telle audace, devant une telle attitude très très sexuée, très très animale et avec un savoir très grand. Elle ne faisait pas parler que d'Hugo. Elle parlait de la littérature, elle parlait du monde, elle parlait de la civilisation. C'était quelqu'un qui était vraiment une humaniste, qui avait une intelligence pas seulement universitaire, mais une intelligence du cœur, comme on dit. Bon, c'est des formules. Mais ça veut vraiment dire quelque chose pour elle. Et elle était ultra vivante, et elle aimait l'insolence, elle était actrice aussi d'elle-même, c'est une figure, elle le savait, elle l'a cultivée. D'ailleurs, elle me disait, il n'y a pas encore très longtemps, un colloque en grande banlieue, je ne sais plus ce que c'était exactement, nous étions côte à côte, on a bu un petit coup, on était un peu pompette, et elle me dit, tu sais, à Besançon, quand on s'est connus, j'avais presque 50 ans, ils voulaient tous me sauter, qu'elle me dit. Donc elle était très... oui, très, très... Je ne peux pas dire autre mot que ultra vivante et jamais, jamais embarrassée de théorie. Ça, c'était le livre. Mais dans la vie, elle était... D'abord, c'est quelqu'un qui aimait, comme beaucoup de grandes figures éclairées, elle aimait faire la cuisine, elle aimait la campagne, elle aimait cueillir ses fruits. Elle était plutôt dans cet aspect comme ça, très familier d'une personne avec ses chats, etc. Elle nous montrait tout ça. En fait, elle ne regardait pas seulement un spectacle, heureusement. Avec disant, j'aime bien, j'aime pas bien, cette actrice, cet acteur. Elle scannait ce qu'elle entendait. Tout de suite, elle avait une interprétation, pas cérébrale ni théoricienne, mais fondamentalement au fond des choses. Et elle donnait une formule, parce qu'elle avait l'habitude des formules, choc, une formule qui pour elle résumait un peu l'ensemble de la démarche. Elle avait, et là c'est si peu courant, elle avait le sens d'un projet de vie et un projet de l'artiste auquel elle se confrontait. Et puis elle était audacieuse, elle était culottée, elle était insolente, elle était... l'anecdote, tout le monde la connaît, que quand Vitez avait monté, je crois, le Misanthrope, Dieu sait que c'était formidable, elle s'est foutue en colère, elle lui a dit « Antoine, c'est raté », etc. Elle était comme ça, très rentre-dedans.
Oui, mais ce qui l'autorisait à être justement rentre-dedans, comme vous dites, Philippe Mignana, est-ce que c'était pas justement cette extrême connaissance qu'elle avait de tous les rouages, aussi bien de la mise en scène que de l'écriture théâtrale? Parce que là, vous dites que vous l'avez fréquentée, vous êtes auteur, surtout et avant tout, même si vous faites aussi de la mise en scène, même s'il vous arrive aussi d'être acteur, c'est plus épisodique. C'est quelqu'un qui maîtrisait parfaitement le mécanisme de l'écriture, spécialiste d'Hugo, on l'a dit, écrivant sur Antoine Vitez, écrivant sur Bernard-Marie Coltès, ça a été un de ses derniers livres. C'est-à-dire qu'elle avait cette connaissance très intime de l'écriture. Donc peut-être que ça lui permettait aussi d'aller loin dans la critique.
Je veux dire encore une formule un peu, peut-être un peu, comme ça, pétillante. Elle voyait l'invisible. Effectivement, vous dites ça, les rouages, et c'est ça. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas regarder un spectacle de façon, comme beaucoup de gens, c'est-à-dire avaler un spectacle et puis avoir une réaction émotionnelle ou mondaine. Elle n'était ni hypersensible ni mondaine. Elle était directement... chez l'image d'un appareil pour creuser un trou dans le mur, d'une perforeuse. Elle était une foreuse et elle allait dénicher une formule à laquelle, évidemment, nous, auteurs ou metteurs en scène, nous n'avons pas pensé. Parce qu'on travaille pas, comme ça, on travaille pas sur une analyse fondamentale, même si on a le sens dramaturgique. Mais elle allait forer et elle récupérait une forme synthétique des choses. Et je ne connais personne d'autre, en 30 ans de carrière, qui ait eu cette façon de foncer dans le lard de la chose théâtrale et d'en extirper la substantifique moelle et de pouvoir en une seule formule la dire.
Ce que je trouve intéressant dans ce que vous me dites, Philippe Mignana, c'est qu'à la fois vous avez cette perception de sa grande pénétration au fond des œuvres et en même temps vous dites, moi je ne comprenais pas ce qu'elle me disait quand elle me parlait de cette manière savante, comme si au fond le discours d'Anne Hubersfeld s'adressait plus aux étudiants aujourd'hui chercheurs. Et d'ailleurs, quand on lit les thèses qui peuvent être écrites sur vous, tous les thésards qui ont écrit sur vous se réfèrent aussi à un moment ou à un autre à Anne Hubersfeld. Il la cite. C'est quelqu'un qui a amené une science, disons, du théâtre. Est-ce que cet apport-là d'Anne Hubersfeld, selon vous, manquerait aujourd'hui à la critique théâtrale au sens large, c'est-à-dire la critique telle qu'on peut la lire dans les quotidiens, dans les hebdomadaires, Philippe Mignana?
C'est difficile de répondre à cette question. Je ne lis pas tous les magazines, j'en lis quelques-uns comme tout le monde. Je dirais qu'effectivement, on a beaucoup des critiques d'humeur mondaines où on comprend pourquoi on fait une bonne critique de quelqu'un, alors que fondamentalement, entre les lignes, on comprend que le critique, soit il l'a fait avant, la critique avant de voir le spectacle, ou alors il s'en fout, mais il fait ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, c'est un événement social. Pour Anne, c'était absolument pas ça, bien sûr. C'était un événement vital. Elle tenait debout à cause de ça, à cause de sa passion. Alors, elle était spécialiste. Donc, c'est vrai qu'elle avait, du coup, un vocabulaire de spécialiste, une sémiologue du théâtre. Il n'y en avait pas 36 000 à part elle. Donc, elle avait obligatoirement un regard aigu et lié au tout, lié à son analyse, à sa façon de décrypter une partition théâtrale. Mais oui, effectivement, bon, on peut dire ça en allant vite, qu'il y a peut-être un manque. On a lu lors de ses funérailles, ont été lues des critiques d'elle qui étaient absolument vertigineuses, au niveau même grammatical. C'est Michel Vinavert qui a fait un hommage à Anne ou Annie au Père Lachaise. Et il a donné, je ne sais plus, la phrase où il manquait le complément. Je ne peux plus vous donner parce que là, dans l'émotion, je l'ai oublié lors de la cérémonie. En tout cas, elle mettait deux mots et l'un, d'habitude, exige un complément. Et là, après le mot, elle met point. Il n'y a pas de complément. Et Michel Vinavert disant, ça c'est Anne Hubersfeld. Mmh. C'est-à-dire comme s'il y avait une urgence de pensée qui ne demandait pas l'entièreté de la grammaire, de la syntaxe habituelle. Il y avait une urgence à dire, et c'était fait visiblement à chaud, après avoir vu le spectacle peut-être, dans son antre rue Gazan. Et ça, on peut appeler ça de l'insolence, on peut appeler ça quelque chose qui nous manquerait aujourd'hui, le désir aussi.
Anna, dans ce reportage, Chantal Meilleur-Plantureux dit que lorsque Anne Hubersfeld lui faisait la critique de ses spectacles, il n'y comprenait rien. La question qui se pose, c'est en fait, cette critique menée par Anne Hubersfeld, est-ce qu'elle s'adressait prioritairement à des érudits ou est-ce que c'était une critique qui était aussi perceptible par le tout venant?
Alors là, j'aurais peut-être un peu tendance à comparer la critique de Bernard Dort à la critique d'Anne Hubersfeld. C'était pas du tout le même type de critique. Je pense que Anne Hubersfeld était moins simple, moins accessible et aux metteurs en scène et aux auteurs, et qu'elle était presque destinée au public de ses étudiants de thèse. Quand je relis aujourd'hui les critiques de Dort dans Le Monde Dimanche ou dans Le Monde Aujourd'hui, ces critiques sont absolument limpides. On n'a pas besoin d'avoir toutes les références qu'avait Anne. Anne, c'est vraiment une critique qui était quand même destinée à un public qui avait les mêmes références, qui avait vu un certain nombre de spectacles. Elle ne pouvait pas parler, par exemple, de Mignana sans citer tout ce qu'elle connaissait de Mignana. Le lecteur ou le spectateur qui ne connaissait pas n'en savait pas grand-chose parce qu'elle avait ses codes, ses références.
Alors nous voilà plongés, Chantal Meilleur-Plantureux, finalement au cœur de ce qui est l'objet du livre que vous vous avez coordonné et dirigé, qui est paru aux éditions Complexes, qui s'appelle Un siècle de critique dramatique, et où effectivement vous republiez des propos de critiques sur leurs pratiques. Propos de critiques sur les spectacles qu'ils voient, propos de critiques sur les critiques qui sont leurs contemporains. Plusieurs thèmes se dégagent de ce livre, et au fond, finalement, rien n'a changé hein, au royaume de la critique. Un de ces thèmes est effectivement le lectorat de la critique. Et là, ça nous renvoie immédiatement au XIXe siècle avec celui qui était adulé par les uns et honni par les autres, qui était le grand Francisque Sarcey, appelé aussi oncle Sarcey, qui lui, finalement, faisait de la critique pour, non pas plaire au public, mais en tout cas pour aller dans le sens des goûts du public. Est-ce que ça, c'est une forme de critique au ras de la critique, Chantal Meilleur-Plantureux ?
Je crois qu'il en faut pour tous les goûts. Et je pense que on ne peut pas parler de critique sans parler du support dans lequel la critique s'exerce. Et c'est l'objet de la suite de ce livre, puisque j'ai un gros groupe de recherche sur la critique dramatique, où nous essayons cette fois-ci de mettre en relation le journal et le critique, et de voir exactement la place qu'il occupe, quel est son rôle, et de voir l'évolution, justement, de la place du critique dans un journal. Alors, Sarcey, d'abord, il a été profondément novateur, hein, puisqu'il fait partie de ce qu'on a appelé la critique moderne, c'est-à-dire qu'autour des années 1877-80, le fait que la presse devient libre, il va y avoir tout d'un coup une floraison de critiques et de journaux. Et donc, Sarcey invente une critique qui est une critique spontanée, qui n'est plus la critique littéraire de ses maîtres, Jeannin, Jules Lemaître, etc., et qui devient une critique d'un spectacle, ce qui est tout à fait novateur. Donc, d'un côté, on lui reproche beaucoup de choses. En même temps, il a apporté dans la critique simplement le fait qu'un spectacle, ça se voit avec des acteurs, des décors, des costumes, un metteur en scène, et il parlait du tout, ce qui était quand même très nouveau. Alors maintenant, c'est vrai que Sarcey s'adressait à un lectorat qui était un lectorat bourgeois, lettré, qui n'avait pas tellement envie de se déplacer au théâtre pour rien, et qui demandait à être conseillé et qui voulait en avoir pour son argent. Et donc, il adaptait sa critique, mais d'une certaine façon, il n'y avait aucune hypocrisie de sa part, puisque c'était ce qui lui plaisait à lui aussi. Il était d'une certaine façon l'étalon du spectacle qui plaisait à son lecteur moyen. Mais c'est presque toujours comme ça. Il n'y a pas énormément de changements.
Mais en même temps, Émile Zola, qui à cette époque-là est aussi un critique, un auteur, un écrivain, fustige Monsieur Sarcey, et il a des termes très durs hein, pour parler de lui. Il dit « La grande chance de Monsieur Sarcey est de venir au théâtre comme un bourgeois qui entend s'y recréer. Il ne s'embarrasse d'aucun système, il n'arrive pas avec des théories littéraires, il n'a même pas des aspirations vers le sublime qui le gênent. Tout ce qu'il paraît demander au théâtre, c'est l'emploi d'une bonne soirée. » Et il ajoute « Il est l'apôtre du succès. »
Bien sûr. Mais alors Zola, évidemment, c'est lui dans l'ouvrage sur Naturalisme au théâtre qui donne les bases d'une nouvelle critique, hein, c'est évident.
Mais une critique qu'on pourrait qualifier d'engagée ?
Oui, une critique qui conteste et qui combat. Oui, bien sûr. Alors, c'est évident que Zola pose les bases d'une critique, mais en même temps, il fait la critique de la critique journalistique. Il ne veut pas d'une critique journalistique. Il dit que c'est une critique trop rapide, trop spontanée, qui ne prend pas le temps de réfléchir. Donc, d'une certaine façon, quand on voit à la fin de l'ouvrage ce débat qui a été un tellement beau débat entre Poirot Delpech et Dort, entre Poirot Delpech qui écrit dans Le Monde, dans la nuit, qui suit le spectacle qu'il a vu, et Dort qui écrit dans Théâtre Populaire ou ensuite dans Travail Théâtral, une critique qui peut peaufiner pendant des semaines, on n'est plus du tout dans le même type de critique. Donc Zola se place plutôt du côté de Dort. Donc il y a des filiations, si vous voulez. Moi, je me suis amusée à les faire dialoguer, en fait, puisque c'est un dialogue presque entre critiques. Quand Jacques Copeau reproche à Léon Blum son copinage, et puis c'est très drôle, parce que c'est des critiques entre critiques, qui se font la guerre, etc. On pourrait écrire la même chose de Copeau. Il y a des filiations, il y a des journaux, il y a des critiques qui ont des voix tout à fait différentes, des lectorats différents. On ne peut pas écrire pareil dans un journal très engagé. Et à cette époque-là, il y a des dizaines et des dizaines de journaux. La place du théâtre est immense. Il y a des journaux révolutionnaires, anarchistes, etc. Mais c'est des critiques engagées, politiques, où le théâtre leur sert de porte-drapeau.
Mais ce qui est frappant, c'est en même temps que ce critique, Francisque Sarcé, a au fond mis en route un processus qui a été ensuite totalement généralisé. Vous parliez de l'avènement de ce nouveau journalisme déploré par Émile Zola, qui lui n'y voyait que précipitation, confusion, traitement dans l'urgence, travail dans la hâte, c'est aussi le terme de Poirot Delpech. Hein. Ce qui fait que du feuilleton du lundi, qui était la critique du critique dramatique, on passe à une multiplication de la critique. Tous les jours, il doit y avoir un papier qui sort pour parler de tel ou tel spectacle, ce qui entraîne aussi le critique vers, au fond, une perte du discernement. Il ne peut plus faire face à la quantité et il perd de sa lucidité et de sa capacité à juger. C'est déploré par un certain nombre de critiques, Chantal Meyer-Plantureux.
Bien sûr, et c'est une critique qu'on fait toujours aujourd'hui. Hein. Et alors, bien sûr, à l'époque de Sarcé, il y a encore quand même Zola, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui ? Parce qu'à l'époque de Sarcé, il écrit quand même toujours un feuilleton sur la semaine, hein, puisque c'est toujours le lundi. Alors, c'est vrai aussi que c'est le début de la publicité autour du spectacle. C'est-à-dire qu'il y a le feuilleton qui est quand même ce qu'il y a de plus sérieux. Et puis, il y a tout ce qu'on imagine qui est aujourd'hui tellement dégradant, le people, mais ça existait. Il suffit de regarder Comédia, il suffit de regarder tous les journaux qui pourtant sont tellement pleurés aujourd'hui. Il y avait les soiristes qui racontaient comment Madame Intel avait telle robe. Il y avait tout ce qu'il y a, on dirait, le buzz autour du théâtre.
Les à côté, oui.
Voilà,
coulisses,
les à côté, les coulisses, la vie des acteurs, la vie des actrices aussi, évidemment. Il y avait tout, mais il y avait des dizaines de métiers de critique de théâtre. Alors, Sarcé, quand même, est encore un feuilletoniste. Moi, je pense que ce qu'on lui reproche le plus, c'est sa capacité à endosser l'habit de Monsieur Tout-le-Monde. Et alors qu'on souhaite que la critique soit un peu en surplomb. Or, évidemment, Sarcé, il est vraiment Monsieur Tout-le-Monde. Voilà ce que j'ai compris, voilà ce que j'ai aimé. Quand, par exemple, arrivent les Ibsen, Strindberg, il comprend strictement rien. Il joue les idiots, les candides. Il ne comprend rien à la modernité, c'est une évidence. Mais il est absolument le lecteur type. C'est l'équivalent de Jean-Jacques Gauthier au Figaro dans l'après-guerre. Et rappelez-vous la grande pièce de Ionesco sur les Bartholoméus dans l'impromptu de l'Alma. Il y a d'un côté Jean-Jacques Gauthier qui est le critique honni, et de l'autre côté Barthe et Dort qui sont des critiques théâtrologues et qui sont aussi détestés. Donc voilà.
C'est le personnage que met en scène Ionesco, voilà. En impromptu.
Voilà.
Effectivement. Donc Jean-Jacques Gauthier serait d'une certaine manière le digne héritier de Francisque Sarcé. Jean-Jacques Gauthier, de ce fait, se heurte évidemment à Bernard Dort. Les querelles continuent. Mais sur l'histoire de la profusion du spectacle, il y a aussi un très beau témoignage de Léon Blum, qui était né fin 19e et qui meurt en 1950, et qui dit que contrairement aux critiques littéraires, qui lui peut choisir de quel texte il va parler et peut décider dans la masse des œuvres qui paraissent d'en laisser de côté, le critique théâtral, le critique dramatique, lui, il est obligé de rendre compte de tout, et que c'est une tâche littéralement impossible et qu'il l'étouffe. Elles sont très émouvantes, ces phrases de Léon Blum. Il dit « Nous sommes les esclaves de l'affiche ».
Absolument.
Chantal Meyer-Plantureux.
Absolument, et c'est ce dont se plaignent beaucoup les critiques. Si vous entendez les critiques à Avignon quand ils ont je ne sais combien de spectacles à couvrir, c'est cette impossibilité. D'ailleurs, Dort, à la fin de sa vie, regrettait, parce que quand il a commencé son rôle de critique, il disait « je vais essayer de tout voir et de rendre compte de tout, de toutes les évolutions ». Puis bien vite, on se rend compte que c'est totalement démiurgique et qu'on ne peut absolument pas. Il faut faire un choix.
On se trouve toujours partagé entre deux choses opposées qui ne réussissent pas à se rejoindre.
Vous entendez s'exprimer Bernard Dort, c'est en 1977.
D'une part, l'étude des textes dramatiques, que l'on a commencé à étudier avec des méthodes de la critique littéraire traditionnelle, enfin, et dont on s'est aperçu assez rapidement qu'on ne pouvait plus les étudier avec ces méthodes. Il fallait les étudier autrement. Puis d'autre part, il y a ce qu'on appelle l'histoire du théâtre, qui est loin d'être d'ailleurs explorée totalement. Je ne rejette pas du tout l'histoire du théâtre, mais l'histoire du théâtre, c'est l'histoire des techniques théâtrales. Et en fin de compte, il est presque impossible d'établir des rapports entre ces textes et ces techniques. Il faut, je crois, élaborer un nouveau concept. Et d'autres méthodes peuvent peut-être permettre d'élaborer ce concept, c'est le concept de représentation théâtrale. C'est-à-dire que qu'un spectacle n'est ni la traduction en langage scénique d'un texte qui comporterait en soi un sens plein, entier, et le spectacle ne ferait que reproduire plus ou moins ce sens, ni la mise en jeu d'une série de techniques qui existeraient à un moment, de techniques de spectacle qui existeraient à un moment donné. Une représentation est autre chose que cela. Une représentation, c'est une façon de faire jouer, en quelque sorte, ce texte, d'une part, ces techniques dans un ensemble signifiant qui est ouvert sur autre chose, c'est-à-dire qui est ouvert sur des spectateurs. Et les spectateurs qui sont des gens donnés, à un moment donné, dans une situation donnée. Et il me semble que, justement, les méthodes d'analyse sémiologique, la réflexion sur les codes, sur l'élaboration des signes, peut permettre d'élucider un peu cette donnée de base qui me semble être la représentation. Pour dire les choses de manière presque provocante, enfin, je dirais qu'au théâtre, ce qui est premier, ça n'est ni le texte, ni les techniques, c'est la représentation. C'est en partant de la représentation qu'on peut élucider le texte et les techniques, et non l'inverse, comme on a eu tendance à le faire jusqu'alors.
Qu'est-ce qu'il en est du dialogue entre les artistes et la critique, Chantal Meilhard-Plantureux, au fil justement des années qui passent? Parce que Dorte a des mots très durs sur ça. Il dit que si la critique n'est pas bonne, c'est que le spectacle aussi n'est pas bon. C'est-à-dire que la production de spectacle n'est pas bon, et que de plus, l'artiste ne veut plus du dialogue. Il ne veut plus d'un critique sévère, d'un critique qui serait exigeant et qui maintiendrait cette exigence au-dessus d'un certain niveau.
Oui, ça c'est évident. Là, on assiste de toute façon à une montée des égos et aux auteurs et aux metteurs en scène qui ne supportent plus une mauvaise critique. D'où la profusion de papiers d'avant-spectacle qui permettent gentiment au journal de se dédouaner, de faire la publicité du spectacle sans véritablement cogner sur un spectacle médiocre. Donc vous avez des spectacles dont on vous parle tellement, puis après vous vous dites « mais au fait, j'ai pas vu ce qui était... » Qu'est-ce qu'en a pensé la critique après ?
Poirot Delpech dit de Barthes, par exemple, qui écrivait dans la revue Théâtre Populaire, que Barthes s'adressait au fond aux élèves du conservatoire. Donc il pouvait avoir une sorte de cohérence à laquelle il ne dérogeait pas. Alors que lui, au Monde, il était critique du Monde, devait réfléchir en permanence à étalonner sa critique en fonction d'un lectorat qui allait de Bac plus 10 à sans doute Bac moins quelque chose. Donc lui ne pouvait pas rester dans cette cohérence et ça lui compliquait considérablement la tâche.
Oui, et en même temps, et moi j'ai vraiment, puis en plus je l'avais invité à mes cours pour qu'il parle justement des paravents, et je me souviens que quand il a parlé de sa critique des paravents, il dit, alors les paravents, pièce ô combien contestée, il y avait les CRS qui entouraient l'Odéon pour permettre au public de rentrer, etc.
C'était Jean Genet en 1966.
Voilà, et donc, là, il fait un boulot de critique du premier soir, c'est-à-dire que il rencontre d'un spectacle, il rencontre de tout ce qui choque, qui gêne, de la salle, etc. Et puis il se dit, je ne peux pas m'en arrêter là. J'ai fait à chaud un premier papier et il nous racontait qu'il y a été pendant toutes les séances. Simplement pour se rendre compte si c'était sa bonne impression la première, s'il y avait d'autres choses à dire, comment réagissaient les spectateurs après avoir eu tout le vent médiatique de l'affaire. Et là, je trouvais ça absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'un critique quotidien qui, de surcroît, va au fond des choses et se dit « je ne m'en arrête pas là et je vais voir comment évolue le spectacle et comment moi j'évolue en fonction des spectateurs et du spectacle ». Voilà des exemples. C'est-à-dire que c'est pour ça que je ne mets pas... pour moi, il n'y a pas un bon, un mauvais critique. Il y a des critiques qui sont bons certains soirs, mauvais un autre. Et il y a surtout des critiques différentes. Et on a besoin de toutes.
Alors, il y a aussi eu, Chantal Meilhard-Plantureux, des critiques très influentes. Francisque Sarcey a été un critique très influent. Jean-Jacques Gauthier, vidé ou remplissait les salles. Ça lui est assez reproché par Bernard Dorte. De ce point de vue-là aussi, comment a évolué la critique avec la multiplication justement des critiques? On a les critiques dans les quotidiens, on a les critiques aussi maintenant sur les blogs, on a aussi eu l'apport de la radio, pendant un certain temps de la télévision qui ne faisait pas réellement de critique, mais bon, qui prenait aussi la parole. Est-ce que la critique a perdu de son influence sur le choix du spectateur d'aller ou de ne pas aller voir un spectacle?
J'ai l'intime conviction que oui, que bien sûr la critique, d'ailleurs ça ne se voit même scientifiquement quand vous calculez même la place dans les journaux, la place du théâtre. La critique ne reflète que la place du théâtre. Donc je pense que maintenant, il y a deux types de publics. Il y a le public qui va en effet se divertir et qui fait confiance aux têtes d'affiche, aux avant-premières et à tout ce qui est, et au journal de 20 heures et aux vedettes. Et puis le public qui est plus passionné de théâtre et qui va en effet écouter des émissions, se faire une idée dans les journaux. Mais je pense qu'en effet, le public de théâtre se rétrécit et forcément la critique aussi. Hein, c'est pas un hasard. Mais en même temps, quand on voit le succès quand même étonnant qu'a la nouveauté qui est de reprendre des pièces, même classiques, en prime time sur la 2, et que finalement, des pièces, alors il y en a de toutes sortes, hein, mais quelques pièces qui font quand même une audience assez étonnante et qu'elles n'auraient pas fait en salle, on se dit que c'est peut-être pas fini, qu'il faut peut-être remettre un peu du punch sur le théâtre.
Mais de quoi s'autorise le critique? C'est-à-dire, quelle est sa légitimité? Quelle est sa formation? D'aucuns, comme Romain Rolland, que vous citez aussi dans le livre, prenait, lui, la suppression de la critique et disait « afin que le public puisse enfin penser, juger par lui-même ». Et Marcel Pagnol, lui, faisait le défenseur d'une licence de la critique. C'est-à-dire que pour être critique, il fallait obéir à un certain nombre de critères et être soumis à l'approbation de certains. On ne devenait pas critique de cette manière-là aussi simplement qu'en se rendant au théâtre soir après soir. Quelle est la formation, quelle est la légitimité du critique, Chantal Meyer-Plantureux?
Ça, c'est la question absolument impossible. Je pense que si on avait un diplôme de critique, je ne suis pas sûre que ça serait une meilleure critique. On a des diplômes d'enseignants, il y a des mauvais enseignants. Il me semble que deux qualités que devrait avoir un critique, c'est la curiosité et la générosité. Pour moi, personnellement, je demande ça. Je demande un critique qui n'arrive pas forcément avec des idées préconçues, qui prend un spectacle comme il est, sans forcément se dire « ce metteur en scène, je ne peux pas le voir, cet auteur, je ne peux pas le voir ». Si on n'a pas d'idées préconçues, on a aussi le droit de se tromper. Je n'aime pas, moi ce que je n'aime pas, c'est de lire un critique dont je sais par avance ce qu'il va penser du spectacle. Si je sais par avance ce qu'il va penser du spectacle, c'est très mauvais signe. Et donc je préfère pas le lire et le lire après. Moi j'ai envie d'un critique qui me dise, bah, écoutez, je suis arrivée, je ne sais pas, je veux pas savoir quelle était la pièce, quel était l'auteur, c'est un jeune, c'est pas un jeune. Et puis c'était formidable, c'était extraordinaire. Et voilà ce que j'ai envie de faire passer. Allez le voir et dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, pour moi, c'est ça, le bagage d'un critique. C'est pas un critique blasé. Je pense que quand on est blasé, il faut arrêter. Parce que c'est un métier difficile, vraiment difficile. Et j'en sais quelque chose. Quand il faut tous les soirs aller au théâtre, c'est pas du tout forcément le métier le plus facile, contrairement à ce qu'on pense. Et puis, c'est un métier qui demande une énergie, une volonté d'être étonné. Et ça, y a pas, à mon avis, il n'y a pas de diplôme.
On va revenir à ça, Chantal Meyer-Plantureux, mais je voulais refaire un détour par Octave Mirbeau qui dit, lui, il faut aimer l'art jusque dans ses faiblesses et ses égarements. Il faut, comme le disait un grand peintre, avoir la maladie de l'art. Et ça rejoint un petit peu ce que dit Bernard Dorte parlant de Jean-Jacques Gauthier, puisqu'il est très virulent sur Gauthier et il le descend point par point. Et il termine en disant, Gauthier n'aime pas le théâtre. Pour être aussi distant, pour être aussi froid, pour être aussi imperméable, il faut qu'il n'aime pas le théâtre.
Oui, ben je partage tout à fait. Hein. C'est pas un hasard si Dorte a été mon maître. Je partage totalement cette opinion. C'est que évidemment, un critique qui n'a pas d'empathie pour les comédiens, pour les metteurs en scène, pour ce monde-là, il faut qu'il fasse un autre métier. Et c'est vrai que quand moi je l'ai vu, Jean-Jacques Gauthier au théâtre, et c'est vrai que cet homme-là. On n'avait pas l'impression qu'il avait du plaisir à être là. On avait vraiment le sentiment qu'il faisait un métier. Or, la critique, c'est aussi une façon de transmettre. C'est un peu comme un, je vous dis, je mets ça sur le, comme un bon professeur. On peut avoir plein de choses intéressantes à dire. Si vous ne les transmettez pas bien, eh bien, vous ratez votre coup. Et je trouve qu'un critique, il doit avoir le goût de transmettre, le goût de transmettre des coups de cœur. Il peut avoir des coups de gueule aussi. Je ne l'empêche pas d'avoir des humeurs. Mais qu'elles soient d'abord justes, justifiées. On peut se tromper, mais au moins, il faut les justifier. Et je crois que le jour où on a raté un spectacle, où on ne le comprend pas, eh bien, il faut avoir l'humilité d'envoyer un collègue et de lui dire, voilà, je crois que c'est peut-être important, mais je suis passée à côté et va le voir. I give to you the blue green of my eyes. And ask in return that you catch.
Une prise de parole à la radio de Anne Hubersfeld en 1977.
Une analyse du fonctionnement de l'espace dans cette représentation serait extrêmement intéressante, des signes produits par le fonctionnement de l'espace, et en particulier de la manière dont les personnages investissent à l'intérieur du même espace, les différents lieux, de manière à pouvoir fabriquer une projection des lieux extrascéniques à l'intérieur même du lieu de la représentation. Alors, c'est ça qu'il faudrait étudier. Vous voyez, par exemple, s'il y avait un film, une bande du spectacle, il serait très intéressant d'étudier séquence par séquence, justement, le fonctionnement, la place des personnages. Selon leur rapport avec l'espace du dehors, ce serait très intéressant de l'étudier, d'étudier ces mouvements, séquence par séquence, avec le sens que produisent ces mouvements.
Se pose aussi un problème à travers les textes qu'on peut lire dans cet ouvrage, Chantal Meyer-Plantureux, qui est-ce que ce sont les critiques extérieurs à la création qui sont les meilleurs juges, ou est-ce qu'il ne faut pas être partie prenante de la création, c'est-à-dire artiste soi-même, pour être en mesure d'écrire sur les spectacles? Et Bertrand Poirot-Delpech, vous l'avez beaucoup cité, fait cet aveu terrible. Il dit qu'entre 4000 critiques que j'ai écrites, j'aurais préféré écrire une pièce de théâtre, parce qu'il a eu à un moment donné une pièce qui a été jouée, c'est l'Alerte, je crois, et là il a pris conscience du travail à accomplir lorsqu'on est auteur ou artiste, et il a réalisé la violence et le côté très lapidaire de la critique par rapport à cette somme de travail.
Mais ça, justement, c'est pour ça que je cite beaucoup Poirot-Delpech, parce que je pense que lui le savait. Parce que justement, sa pièce L'Alerte, il avait fait cette confidence assez terrible, c'est qu'il m'a dit je vais pouvoir la faire jouer maintenant que Dort est mort. Parce qu'il n'aurait pas supporté le regard de Dort sur cette pièce, parce que justement, il considérait Dort comme un excellent critique et qu'il l'aurait regardé avec de vrais yeux d'intérêt, et que lui, ces yeux-là, il n'aurait pas pu le supporter si ça n'avait pas été bon. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas si le fait d'être artiste soi-même donne un brevet de... Moi, je ne le crois pas, parce que je mets un texte de Robert de Flers, critique-auteur, où justement de Flers, qui est un grand auteur dramatique et très joué à l'époque, puisque c'est le duo Flers et Caillavé qui a un succès monstrueux, et il est critique du Figaro, donc un critique ô combien important. Et j'ai bien analysé, parce que j'ai fait un travail sur De Flers là qui va apparaître, et je me rends compte qu'il y a un effet copinage effroyable. Au fond, il parle des copains, de ceux qui lui font pas d'ombre. Il parle pas vraiment de ceux qui sont sur le même créneau que lui. Il parle même quelquefois de ses propres pièces. Il en fait quasiment quelquefois la critique. Donc on arrive quand même là dans un abîme de connivence qui quand même est un peu sujet à caution. Donc je ne suis pas très sûre que ça soit ni un comédien, ni un metteur en scène, Copeau par exemple, De Flers, il y en a eu beaucoup, hein, qui ont fait les deux, qui soient les plus habilités. Moi, je ne le crois pas. Par contre, il y a une très belle expression de Georges Banu qui dit « le regard à mi-pente », qui est celui de Bernard Dort, c'est-à-dire un pied dans la création, un pied à l'extérieur, parce que Dort était très présent. Il a été conseiller de plusieurs metteurs en scène, il a été conseiller dramaturgique, etc.
Donc il est même monté sur un plateau théâtre à travers la fin
fois
de sa vie comme acteur.
Deux fois, oui. Mais c'est à toute fin de sa vie, et il avait déjà une longue carrière derrière lui. Mais c'est quelqu'un qui avait en même temps le regard du créateur, la conscience du travail. C'est-à-dire qu'il n'y avait jamais dans le regard de Dorte de formule lapidaire parce qu'il considérait que d'abord c'était un investissement énorme. Donc il y avait avant tout un regard tout à fait d'empathie.
Robert de Flers, puisque vous y faites allusion, qui était feuilletoniste au Figaro, 1872-1950, ce sont ses dates de naissance et de mort, soulève un point intéressant. Il dit que la pente naturelle de l'intelligence est de comparer ou de juger, et que finalement, on n'est pas en mesure d'émettre des avis radicaux sur ce qui se présente à nous et qui est nouveau. On peut le faire sur des œuvres classiques, mais pour tout ce qui concerne la modernité, il faut être extrêmement prudent, car, dit-il, c'est toujours l'époque où l'on vit que l'on connaît le moins. Et ça soulève ce problème aussi de la critique face à la modernité, face à ce qu'on peut appeler aussi, c'est un mot galvaudé, mais l'avant-garde. Quelle est la position du critique dans ce cas-là, lorsqu'il ne sait pas, lorsqu'il ne connaît pas? Il peut avoir une position de repli. C'était le cas de Jean-Jacques Gauthier ou c'était le cas de Francisque Sarcey. Et il peut aussi totalement être dans l'erreur par rapport à ce qu'il appréhende et ce qu'il voit. Chantal Meyer-Plantureux, comment ça s'est passé, ça aussi, cette évolution?
Ça, c'est très évidemment, ça c'est même carrément le point crucial de la critique. C'est comment comprendre une œuvre qui est peut-être faite pour demain, qui est peut-être trop en avance sur son époque. Il y a un grand exemple pendant le Front populaire d'une pièce, Naissance d'une cité, qui est une pièce de Jean-Richard Bloch, une pièce absolument, mais d'une modernité quand on la resitue aujourd'hui avec vraiment des choses absolument hallucinantes. Il y avait d'ailleurs toute la modernité. Il y avait Picasso, il y avait Léger qui avait fait les décors. Enfin, c'était vraiment une œuvre d'une modernité. Personne ne l'a comprise. Que ça soit Copeau ou que ça soit même des... Alors vous voyez, c'était le metteur en scène de l'époque. Le cartel n'a rien compris à Jean-Richard Bloch. C'était la modernité de l'époque. Donc que ce soit des metteurs en scène, des auteurs ou des critiques lambda, ils sont passés à côté. Donc vous voyez que c'est vraiment la quadrature du cercle. C'est-à-dire, c'est ce que je vous disais, il faut avoir une curiosité, de l'humilité, puis il y a des fausses gloires aussi. On peut très bien tomber à genoux devant une œuvre parce que soi-disant c'est moderne et puis se planter totalement. Hein. Il n'y a pas d'échelle de valeur. Dans l'art, il n'y a pas une échelle, ça serait trop simple.
En même temps, il y a aussi des écoles et ces écoles peuvent être aussi politiques. Vous faites allusion à la critique brechtienne. C'est Jean Villard qui se plaint à un moment donné de la critique de Roland Barthes sur son spectacle et qui s'élève contre ce que Barthes a pu dire de son spectacle, c'était la mise en scène de Ubu. C'est Ionesco qui a souffert aussi des brechtiens, des critiques brechtiens qui ont rejeté son théâtre après l'avoir, au fond, accompagné. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il y a un effet de mode, un effet de contagion politique, un effet de contamination d'un critique sur un autre critique qui fait que certains spectacles ou certaines esthétiques sont tendance va se mettre à adorer l'avant-garde parce que c'est l'avant-garde et que le précepte consiste à adorer l'avant-garde, ou tout à coup on va se mettre à la rejeter parce que ça n'est plus au goût du jour. Comment le critique peut se défendre de ça, Chantal Meyer-Plantureux?
Il peut se défendre en ne mettant pas une grille de lecture qui va pour des spectacles sur d'autres spectacles. Je pense que la critique brechtienne était absolument dans l'erreur quand elle jugeait les spectacles de Villard à l'aune de Brecht ou les spectacles de Ionesco à l'aune de Brecht. D'autant que Théâtre Populaire avait défendu Villard, avait défendu Ionesco, l'avait découvert, Ionesco, Beckett, etc. Et brusquement, du jour au lendemain, il y avait le Messie qui était arrivé, il y avait Brecht, et tout était à la grille de lecture brechtienne. Bien sûr que c'était... Et ils avaient raison de se défendre.
L'autre effet pervers, qui sans doute était moins prégnant au début du siècle et qui aujourd'hui est devenu une évidence, et c'est aussi Jacques Lassalle qui le soulève, c'est un fait réel, c'est les contingences économiques, c'est-à-dire le contexte dans lequel le critique exerce son travail. Jacques Lassalle fait allusion, effectivement, à ce fait anormal, mais qui peut quelque chose, qui est que, par exemple, lorsque le critique se déplace en province pour aller voir un spectacle, la plupart du temps, c'est la production théâtrale qui lui paye son voyage, qui l'invite à l'hôtel, parce que le journal n'a plus les moyens de le missionner, comme on dit.
Oui, bien sûr. Donc
ça, effectivement, c'est vrai que ça crée un effet de connivence, Chantal
Meyer-Plantureux. Mais ça,
il y a quand même une défection des patrons de presse par rapport
à la critique théâtrale. Hein? Ah ben ça, c'est une évidence, parce que ça ne se passe pas comme ça du tout aux États-Unis. Ça ne se passe pas aux États-Unis. Un journaliste ne se fait jamais inviter, mais dans quelque domaine que ce soit, parce que ce n'est pas propre non plus à la critique théâtrale. Hein. On sait très bien qu'il y a des petits arrangements pour éviter des lourdes notes de frais au journal. Mais bien sûr que c'est tout à fait anormal. Mais en même temps, la la critique, parce que justement, souvent aussi, on a tendance à vouloir les critiques parisiens, alors qu'il y a des critiques locaux qui pourraient très bien être des correspondants, comme les correspondants de journaux pour la politique intérieure ou extérieure. Et je pense qu'il y a aussi un mal que je vois d'ailleurs au cours du siècle. Au début, le syndicat de la critique s'appelait le syndicat de la critique parisienne, et puis il leur a fallu un temps fou pour admettre la province. Et il y a aussi ce système-là qui fait que les auteurs eux-mêmes et les metteurs en scène eux-mêmes veulent telle ou telle critique de la grande presse parisienne. Donc c'est aussi un effet pervers du côté des spectacles, parce qu'ils n'accepteront pas pour eux une bonne critique dans Ouest France, enfin je le sais puisque j'enseigne à Caen, n'a aucun intérêt si c'est pas relayé par Le Monde, Libé, etc.
Pour conclure, Chantal Meyer-Plantureux, si l'on devait redéfinir ou tenter de définir une éthique de la critique, est-ce qu'il faudrait repasser par cette phrase de votre professeur, de votre maître, de votre mentor Bernard Hoerth, qui dit « Ne faut-il pas moins écrire sur le théâtre et un peu plus du théâtre ?»
Et oui. Après ça, je dirais qu'il a absolument raison. Bien sûr qu'on tartine, si vous voulez, pendant des pages et des pages sur des choses quelquefois assez médiocres et sans intérêt parce que ça fait le buzz ce jour-là, alors que évidemment on aurait beaucoup plus intérêt à prendre le temps, à réfléchir, à donner des ouvrages plus pensés. Mais alors, vous parliez de la critique théâtrale qui diminue, mais alors l'édition théâtrale, n'en parlons même pas.
Vive les revues, alors, le peu de revues qui restent.
Vive les revues, vive aussi les petits éditeurs qui continuent à penser que le théâtre est important.
Merci Chantal Meyer-Plantureux.
Quand on veut évoquer le théâtre, que ce soit une représentation vue du dehors ou l'acte théâtral, le fait de jouer, c'est toujours compliqué.
Intervention du critique Bernard Hoerth.
Alors il faut ou l'évoquer poétiquement, mais à ce moment-là c'est Proust parlant de la Birma, enfin... ou Brecht décrivant Charles Laughton travaillant sur Galilée. On peut l'évoquer aussi de manière savante, scientifique, plus ou moins, enfin, sociologique, sémiologique, dramaturgique, enfin. Mais on peut essayer d'écrire des essais sur le théâtre. Et quand j'écris sur le théâtre, j'essaie d'en parler de manière sensible en tant que le spectateur que je suis, en tant que le spectateur d'Hoerth. Ce qui m'a toujours importé quand même, c'est de savoir au fond pourquoi j'aimais le théâtre. Qu'est-ce qui se passait pour moi à ce moment-là? Parce que, et puis, c'est ma vie du point de vue du temps aussi, c'est ma vie. Je passe beaucoup de temps au théâtre, trop de temps parfois. Je me dis, qu'est-ce que je fous là, enfin, puisque... Au théâtre, il y a une différence fondamentale, une différence de matière absolue, enfin, entre la page blanche, les textes qu'on écrit et la représentation. Et puis la représentation, elle s'éloigne très rapidement, on la saisit difficilement. Et alors, au fond, un des... peut-être le point aveugle autour duquel tourne ma réflexion, comme ça, c'est qu'est-ce que j'aime dans le théâtre? Quand est-ce que le théâtre m'intéresse, me fait jouir d'une certaine manière? D'une part, j'ai plaisir... au plaisir du jeu, comme ça. Mais en même temps, je ne supporte pas un théâtre trop renfermé sur lui-même, un théâtre trop narcissique. Je crois que s'il s'oppose en quelque sorte au monde, s'il devient une sorte de refuge contre le monde, à ce moment-là, ça ne m'intéresse plus trop. Enfin, je crois que ce que j'aime bien au théâtre, enfin, c'est qu'on nous raconte des histoires du monde, mais on les raconte autrement qu'elles ne se passent dans le monde.
C'est la fin des Mercredis du théâtre. Le livre dirigé par Chantal Meyer-Plantureux intitulé « Un siècle de critique dramatique » est publié aux éditions Complexe. D'autre part, un livre des meilleures critiques de Anne Hubersfeld, elle avait fait elle-même le choix des textes, va sortir prochainement aux presses universitaires de Rennes dans la collection Le Spectaculaire sous la direction de Isabelle Moindreau, Florence Nogrette et Pierre France.